out the window. White lines go by one by one by one. Loneliness.
Jamaica, Travel Bag Blues.
Feeling like the. Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 24 mars 2012. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h30 du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Janot Dead, et à 17h FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici l'île de la tentation que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Et quand le lieutenant de la section qui l'a capturé lui demande comment il s'appelle, lui il est encore couché par terre, et puis il lève juste la tête comme ça, et il voit un petit buisson avec quelques myrtilles, comme ça il dit je m'appelle Blueberry, et voilà.
Radio FMR présente... Le supplément week-end... Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Ouais, la semaine dernière, c'était donc une émission hommage à Jean Giraud, Moebius, qui nous a quitté maintenant il y a 15 jours. Entre-temps, cette semaine, s'est passé un événement assez dramatique sur Toulouse. C'était en plus pas très loin de chez moi. Et évidemment, on a une empathie vis-à-vis des familles de victimes. Bien évidemment, des militaires qui ont été assassinés et des enfants qui ont été pris pour cible.
Et le professeur aussi.
Le professeur aussi, c'est-à-dire vraiment, ils ont dû être choqués là-dessus, de ce côté-là. On comprend tout à fait. Néanmoins, moi, je pense que même si c'est un acte isolé, ça reste quand même un acte terroriste. Mais c'est justement le principe du terrorisme, celle en fait de faire un acte suffisamment spectaculaire et choquant pour faire entrer toute une population dans un état de guerre permanente par l'occupation des forces armées, une occupation militaire accrue et tout le reste. Et peut-être que finalement c'est exactement ce que voulait cette personne, toute désaxée qu'elle soit, c'est-à-dire qu'on oublie complètement ce qu'est que la normalité et qu'on entre dans son jeu. Alors moi je propose l'inverse, je propose qu'on profite de ce beau week-end, de ce premier week-end de printemps, d'abord peut-être pour aller poser une fleur dans le quartier de la Roseraie, pour sortir, pourquoi pas. Par exemple, en ce moment a lieu les rencontres du livre et du vin qui ont lieu à Balma.
Il vaut mieux lire et boire un verre après, parce que si vous buvez beaucoup avant, vous n'allez pas réussir à lire les pages.
Exactement.
C'est pas mal ça.
C'est pas mal.
C'est comme ça, Maroni. On essaiera de faire la blague l'année prochaine.
Ouais, j'y pense aussi. Donc Lionel Trioulot, Nedim Gursel, Gérard Mordilla sont donc les auteurs principaux.
Il y a Pascal Dessin aussi.
Oh, il y en a
Henri Alleg.
Il y en a toute une palanquée. Comme d'hab. Voilà, donc c'est un moment vraiment plaisant ou sur lequel on a parfois des petites surprises. Moi je me souviens avoir lu et découvert un magnifique rosé pétillant.
Tu as lu dans un rosé magnifique?
Oui, je suis un petit peu...
Tu es dans le devin d'Astérix?
Exactement, voilà, j'allais sortir à vanne. Il y a bien évidemment pas mal de livres intéressants à découvrir, des auteurs locaux. Il y en a vraiment dans tous les styles d'ailleurs, hein. C'est vraiment bien et intéressant de ce côté-là.
Non, mais c'est bien parce que ça, on peut se faire déjà une image. Il y a le printemps qui arrive, les terrasses qui sont à nouveau nettoyées avec un petit verre de rouge ou un petit verre de blanc avec un joli livre et puis un petit peu de soleil. Et puis voilà.
Voilà, donc Thomas a sûrement participé au tournage des sorties de l'autre, là, celui qui fait le dimanche à midi.
Les petits Renault.
Petit Renault. Il était il y a 3 semaines. À Toulouse, donc c'est passé ce week-end dernier. Voilà, Thomas a été contaminé.
Ah, j'ai pas vu, j'ai regret de l'avoir raté d'ailleurs.
Donc, à côté de cela, Bref, si vous souhaitez faire un petit peu de grimpe et allier ça avec de la bande dessinée, on est toujours dans le mélange des genres. Il y a une chose qui est assez intéressante qui va se passer mercredi prochain dans les salles Altissimo, qui sont des salles de grimpe, hein, d'escalade. Ça va commencer en matinée à la salle de Saint-Martin du Touche et l'après-midi à celle de Toulouse. C'est une séance de dédicace d'une bande dessinée d'une auteuse
qui est chez Fig Glacier. Auteuse ou auteur,
auteur, Théo, moi non plus.
Il faudrait que je revoie mes articles sur ActBD qui ont été corrigés.
Oui. Donc c'est une auteure qui s'appelle Blonde, ah, et dont l'album s'appelle Prends-moi sec.
Ah,
mais attention, d'accord, c'est une bande dessinée autour de l'escalade, donc ne vous méprenez pas, d'où, d'où cette collaboration entre Terre de Légende et donc, des salles de...
De faire du racolage comme ça, c'est dégueulasse.
Ouais, ouais.
Allons, un d'ailleurs, petit peu de talc, s'il te plaît.
Ami, ouais, ami, non, c'est pas de la vaseline. Pas
non,
de
la magnésie.
Ouais. C'est la magnésie.
La magnésie, ouais.
Non, la vaseline, t'imagines, oui. Attends, s'il te plaît, quand même.
Je pensais que t'étais encore dans le second degré. Mais, oh, ami amateur de varap, n'oubliez pas de vous encorder avant de pratiquer. Patrick Pinchard, si nous écoute.
Oui.
Voilà.
Oui, 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 voilà. C'est une private joke. Néanmoins, ceci dit, il n'y a pas que cela à la librairie Terre de Légende. Figurez-vous que samedi prochain, le samedi 31, à partir de 15h, ce sera là aussi à nouveau biture et bande dessinée. Biture et gros cube, puisque oui, enfin ouais,
gros cylindré,
oui, voilà. Je pense, et belle pépé, puisque c'est Coyote qui sera en dédicace.
Coyote
qui sera en dédicace,
il y arrivera jamais, je pense.
Ouais.
Je crois qu'il va encore se foutre de ma gueule. Mais alors, ça y est, hein.
Non, en plus c'est faux, parce qu'il a une voix super douce, en fait.
Oui, c'est vrai, et puis il est adorable. Franchement, c'est un gars qui est vraiment super sympa, qu'il ne faut pas hésiter à rencontrer. Dites bonjour à son coloriste de notre part, d'ailleurs, c'est un
oui,
plaisir.
Alors, avant de demander une dédicace à Coyote, il a la particularité de surfer, d'avoir des idées de dessin à partir des anecdotes que vous lui donnez. En fait, quand vous allez demander une dédicace à Coyote, vous n'allez pas en demandant « je veux une dédicace de moto, je veux une dédicace de tel personnage ». En fait, il s'inspire de vous pour aller faire le dessin. Je me rappelle très bien.
Il y a des choses pas mal qui en ressortent des fois. Hein.
Voilà,
franchement, c'est vraiment personnel, c'est très agréable.
Il est capable de dire à un couple, alors, c'est quoi qui vous lie entre eux, entre vous, à part le sexe. Voilà. Donc ça annonce la couleur. Ah, on a fait pas mal de blagues graveleuses pour l'instant, alors qu'on est à peine à 10 minutes d'émission. C'est pas mal, on est bien parti.
On est bien parti, je vais dire que c'est une sortie de route, puisqu'à côté de Coyote, Cyril Pomès dédicacera donc ce bouquin le même jour, samedi, et il y aura aussi Isha, donc c'est à la librairie Terre de Légende, c'est le samedi 31 mars, et le lendemain, c'est le...
Changement d'heure.
Non, c'est cette nuit.
Ah merde, oui, c'est le...
C'est cette nuit, attention.
Ah, c'est le 1er avril déjà, il faut commencer à préparer les gags alors.
On n'a pas encore préparé, mais je tiens à signaler que Terre de Légende fera une séance de dédicace. Surprise, on ne sait pas ce que c'est. Alors à mon avis, soit la surprise c'est la porte sera close, soit il risque d'avoir des auteurs de la région qui seront présents, et qu'avec ce beau temps, on va peut-être en profiter. Et quitte à profiter, on va peut-être sortir, puisque le 28 et 29 avril aura lieu le Toulouse Game Show Wanami, édition Wanami. On espère être sur place. Je pense qu'on va bien s'éclater. Il y aura de présent Cliff Simon, Marcus, le joueur du grenier, les noobs, David et Mourier, Brigitte Le Cordier. Il y a un autre doubleur.
Il y a Eric Legrand qui est le doubleur officiel de Seyard, entre autres Vegeta et plein d'autres.
Je vous dis pas quand Thomas a su la nouvelle.
Ah oui, je fais dans tous mes états. Il double aussi Jethro Gibbs dans NCIS aussi, bon, un autre registre. Il y a également le donc Cliff Simon, tu l'as en a parlé. Il y a aussi le doubleur de Cliff Simon qui sera là.
Oui. Ça va être amusant, il va se faire traduire s'il le faut par son doubleur.
Nous attend tout, nous attend. Ouais, ça peut être rigolo. Nous
ça
attend...
peut être très fun.
Il y aura également le groupe de visual. De musique japonaise visuelle. Alors je sais pas comment on dit ça, Visual Kei, je crois. Le groupe D.
Oui, c'est ça, voilà, c'est Visual Kei. Et voilà. C'est D, oui, effectivement.
Et il y a également un auteur, un guest star animation ou manga qui a annoncé. Je crois savoir qu'ils ont des petits problèmes de confirmation pour l'instant. Donc nous savons juste qu'il y aura un invité dans cette catégorie, mais qui n'a pas encore été annoncé. Voilà, ils entretiennent le mystère.
Non.
Voilà.
Non. Donc. Par contre, donc. Carmen Argenziano.
Alors voilà, il y aura trois guests de Stargate SG1. Il y aura David Nickel qui est le gars qui joue le Tchèque dans Stargate Atlantis. Il y a Cliff Simon qui joue Baal, un des méchants de la série Stargate. Et donc cet acteur au nom imprononçable qui
David Nickel.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Voilà.
Et ainsi que le troisième acteur au nom imprononçable qui joue le rôle de Jacob Selmac, qui est le père de Samantha Carter dans SG1, qui a été annoncé cette semaine, qui sera là également.
Carmen Argenziano.
Voilà, Carmen Argenziano, je te félicite pour la prononciation.
Je me suis pas du tout entraîné. Voilà. Et donc,
sachez maintenant,
toujours pas qui est le grand.
Voilà, sachez juste, on va clore là-dessus pour pas faire toute l'émission sur TGS, mais sachez juste que les autres années, c'était une édition concentrée sur le Japon. Cette fois-ci, c'est plutôt un TGS Light, pas orienté
d'accord,
Japon,
ouais, parce que j'allais dire je vois pas SG1, je vois pas le rapport avec
voilà,
le Japon.
Voilà, non, ils ont plutôt orienté les SF, jeux vidéo, animation comme d'habitude, mais en version light. C'est plus du tout trop au Japon.
TGS Redux.
Voilà, on essaiera de les inviter avant cette édition du TGS Wanami, puisque il faudra qu'ils nous expliquent. Bon, on va excusez-nous pour cette légèreté qui intervient assez tôt après les événements, mais il faudra qu'ils nous expliquent comment ils ont le chic pour programmer les éditions après le tsunami japonais et après la tuerie toulousaine. Donc ils sont quand même assez plombés chaque année, les pauvres. Voilà.
Et je commence à croire que mauvais œil. Ouais. Est-ce que l'on aura un jour la joie en plein TGS ou un ami d'avoir un exorcisme? Ce serait amusant. En tout cas, comptez sur nous pour récupérer du son. Ça peut être fun.
Ouais.
Comme ça, vous aurez, vous réécouterez le podcast et vous aurez vous aussi un petit exorcisme à la maison. Ça peut être fun. Ouais, on sait jamais.
Quoi cette musique?
C'était très bien sucré, merci du sport. Ah pardon, la musique.
sucré aussi.
C'est aussi, voilà, le café. Future Sound of Jazz, volume 6, qui revient régulièrement dans les fonds sonores. Et là, c'est Mona G, Underwater Pressure. Donc voilà, si tu veux écouter le CD après, hein. C'est vrai que ça fait régulièrement partie de la programmation musicale. Surtout que j'utilise en général pratiquement l'ensemble de ce CD quand je le prends. Voilà, c'est des petits secrets comme ça et tout. Et tout le reste, on va peut-être...
qu'on divulgue nos secrets de fabrication un jour.
On pourra 4 centièmes, hein.
Oh là là.
Oh, va falloir encore tenir 2 ans et demi. On va commencer avec donc les chroniques, bande dessinée et livres. Et la bande dessinée de la semaine, c'est L'Enfant Insecte de Hideki Hino, qui vient d'être traduit en France. Alors Hideki Hino, c'est un dessinateur de manga, oui, je suis en reste dans le Japon. C'est un dessinateur de manga qui doit avoir actuellement 65 ans, qui est toujours en vie d'ailleurs. Il est né en Chine en 1946. Ses parents étaient des travailleurs japonais arrivés en Mandchourie lors de la conquête du territoire. C'était avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Et comme il est né après la défaite du Japon, il a des souvenirs très fugaces, hein, du fait que ses parents ont dû fuir avant de se faire lyncher si possible. Bref, il a été relativement marqué de cette jeunesse, mais c'est surtout en fait ce que lui ont raconté ses parents qui l'ont marqué de ce côté-là. En 1967, il entre dans la revue Com. Com est une revue, un magazine de bande dessinée expérimentale qui est lancé par Osamu Tezuka et qui, à l'époque, est en plein dans le succès économique du dessin animé Astro Boy. Et c'est son premier travail professionnel et déjà, il va s'y faire remarquer. Son œuvre met en scène, en général, des cauchemars grotesques, des tueurs déviants et des corps difformes. Et c'est exactement ce qu'est L'Enfant Insecte, paru au Japon en 1975. C'est un conte horrifique sur la métamorphose. L'histoire du jeune Sanpei, eh ben, c'est celle d'un corps ingrat, de mauvaises notes en classe et un amour pour les animaux. Sa journée commence par sa maîtresse qui le gronde car il ne suit pas les cours, voire pire, il y a introduit des insectes, des chenilles et des serpents en classe. Ensuite, il se fait humilier par son professeur d'éducation physique car il est plus rapidement essoufflé que ses camarades. Et quel camarade qui le tabasse, et oui, c'est le souffre-douleur de la cour de récré. Et il est bien évidemment fui par les filles. Et enfin, il y a les reproches de ses parents, de son frère, de sa sœur, ayant des résultats nettement inférieurs à la moyenne. Et ben oui, on est dans le Japon de la renaissance économique des années 60, et la place dans la société, c'est la réussite, la normalité. Des notes bonnes, une progression hiérarchique dans de grandes entreprises. Heureusement, Sanpei peut se réfugier dans un abri d'une des charges où il nourrit des animaux de gouttière, où il élève des oiseaux et des poissons. Et sa grande passion, ce sont les insectes. Mais un jour, il va se faire piquer par un insecte venimeux. Le corps de Sanpei ne va pas mourir, mais changer horriblement. Le corps devient difforme, se liquéfie, et dans une douleur intense, il va perdre ses dents, ses bras et ses jambes.
Mais on est chez Cronenberg, là.
J'y songeais.
Ah merde, je te coupe ta chronique, pardon.
Les médecins ne savent évidemment que faire, alors sa famille l'enferme dans sa chambre. Et un jour, il va muer. Son ancien corps est une peau morte, son nouveau corps est celle d'un insecte gigantesque. Sa famille fait croire à sa mort en enterrant sa mue, et il va tenter de le tuer. Sanpei va fuir, et il va vivre comme un insecte. Mais quelle part d'humanité va-t-il rester en lui, surtout après avoir été traité comme un moins que rien ? Cette histoire est une adaptation de La Métamorphose de Franz Kafka. Voilà, hein ?
Eh oui, eh oui.
Monsieur, sur le registre.
Bah, c'est flagrant quand on feuillette le truc, le bouquin comme je l'ai fait avant, quoi. C'est vraiment flagrant, hein, de toute façon.
On y retrouve, c'est clair, sur le rejet de la normalité, l'animalité latente des hommes et surtout la bestialité des normes. C'est bien évidemment une adaptation beaucoup plus libre par rapport à celle de Corbeyran et Horn qu'on avait chroniqué en 2009. On peut aussi rapprocher à la sortie, bien évidemment, de La Mouche.
Mais,
la première du nom. Voilà.
Oui,
donc,
de Cronenberg.
Non, 65.
Ah, la première en noir et blanc, pardon. Oui.
Non, en couleur, il me semble.
Couleur, t'es sûr ?
Pas sûr.
Bon, on vérifiera après, mais en tout cas, c'est clair que ça a plus ou moins inspiré, à mon avis, Hideshi Inno là-dessus, de ce côté-là. Le dessin de Hideshi Inno préfigure le travail des dessinateurs qui donneront un aspect faussement mignon à leur cauchemar. Et moi, je pense bien évidemment à ce que fera plus récemment Junko Mizumo. Hideshi Inno, l'enfant insecte, c'est chez IMHO et... Oui, ça retourne un peu.
Oui, ah bah oui, à déconseiller aux âmes sensibles.
Bah là, attends, la couverture, tu peux difficilement faire plus rentre dedans quand même. Hein. On dirait qu'il y a l'enfant insecte, il est complètement déformé en immense gros plan. On dirait qu'il va te gerber ses furoncles à la gueule, quoi. Tu le vois dans la librairie, alors déjà, je sais pas.
Non, mais continue, décris s'il te plaît, décris, c'est
non,
de la radio. Si, décris-le, ça me laisse le temps de chercher le film.
Je disais en off tout à l'heure, il y a des années où j'étais dans l'expérimentation et en parfait étudiant de beaux-arts que j'étais, pauvre de moi.
Pardon.
J'aurais rigolé en voyant cette BD, je me serais jeté dessus aujourd'hui en tant que vieux trentenaire plus posé et aspirant à des nouvelles perspectives dans ma vie. Je pense que je passerai mon chemin.
J'ai gagné La Mouche Noire 1958, The Fly, réalisateur de Kurt Newman, et apparemment il est en couleur. Ah, ça semblait bien, j'avais pas deviné les couleurs comme ça. Attends. Voilà, donc on a tourné notre page de manga et j'espère qu'on va sortir du Japon. Thomas, tu as un livre ?
Ouais, c'est sur le Japon.
Oh merde !
Non mais c'est bien parce que tu vois, au lieu d'être intelligent et d'attendre notre émission spéciale Japon de avril,
ce qui aurait été logique, voilà.
Voilà. Eh ben en fait, on réfléchit pas trop en fait quand on prépare nos émissions. Donc cette fois-ci, on grille toutes nos cartouches avant, c'est cool.
Et ça nous en laisse encore moins pour la suite.
Non mais je pense qu'on fait nous confiance, on pourra toujours vous ressortir des Takashi Miike de derrière les fagots, puisqu'il y a trop trois films par an, le mec.
Non, alors... non, parce que j'avais un autre bouquin d'IMHO, tu sais, mais comme il n'est pas encore 22h30, je peux pas le chroniquer comme ça, tu vois. Donc,
alors sachez que Xavier
alors,
avait.
Alors Takashi Miike, imagine. Hein,
sachez que Xavier avait deux BD potentiellement chroniquables aujourd'hui japonaises et que la deuxième lui a fait tellement horreur qu'il a fait sa chouchoute. Il a dit non, je peux pas.
Tu lis mon Twitter, toi.
Oui, tout à fait. Okay. Et alors.
Je crois que je te lis aussi. Du sport, tu as un Twitter
Pas du tout.
Ah, faudra un jour.
C'est pas grave.
Tous les journalistes y sont. Alors regarde, même De Soto et tout. Toutes ces émissions et les journalistes qui importent, maintenant ils ont tous leur compte Twitter et leur hashtag.
Donc bref, je passe cet artbook à mes confrères. Donc il s'agit, ça s'appelle Voyage au Japon. Le tome 1 s'appelle Tokyo et c'est édité chez Café Salé Inc.
Non mais attends, on va pas faire quand même une chronique chaque fois que des dessinateurs font leur voyage mystique et initiatique au Japon.
Alors là, c'est pas un voyage mystique et initiatique, il s'agit plutôt d'un voyage de noces. Puisque le couple qui est aux manettes de ce bouquin, donc l'illustrateur Rémi Ménègre et sa femme, Sandrine Garcia, se sont mariés et ils concrétisent leur rêve, c'est-à-dire d'aller au Japon, et ils reviennent et ils en font un bouquin.
Donc en clair, leur famille leur a payé un voyage au Japon, et là ils revendent le bouquin à leur famille et à leurs amis.
En fait, ça leur dispense de faire des séances diapositives, oui, t'as raison. Donc, Rémi Ménègre, peut-être que ce nom vous dira quelque chose puisque nous avions déjà chroniqué l'artbook Manditude 9 sur, en hommage aux victimes du tsunami japonais. Rémi Ménègre, c'était l'un des initiateurs de ce projet avec Morvan, avec Maid, avec Knes de la communauté Café Salé. Donc ce bouquin, je l'ai dit, c'est un couple qui est fraîchement marié qui va au Japon, donc ce n'est pas du tout un artbook classique, c'est plutôt comment eux ont vécu leur voyage de noces au Japon. Il s'agit du tome 1 ici, puisqu'ils sont allés à Tokyo, le tome 2 ça se passera plutôt dans le Japon plus culturel, en dehors de la capitale, et... Alors c'est vrai que c'est un gros pavé, alors en plus c'est un bel objet comme on est habitué chez Café Saling puisque c'est en vernis sélectif, la couverture est cartonnée, très costaud, les pages sont comportent du grain, donc on a vraiment l'impression de feuilleter un carnet de croquis, et c'est vrai que c'est un carnet de croquis agrémenté évidemment de tickets d'avion, pour vraiment c'est à mi-chemin
des petits artefacts hein.
Ouais, c'est à mi-chemin entre l'artbook et le compte-rendu de voyage d'un couple marié qui souhaiterait le faire partager à ses amis.
Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de textes. En plus, bon, les textes sont bilingues.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'il y a une assez forte présence de textes quand même pour un artbook. Ça change, c'est surprenant.
Alors, c'est bien parce que dans les textes, ce sont de couples de mariés. Alors, plutôt, lui fait le dessin, elle fait le texte. Les dessins sont faits à partir de photos qu'ils ont ramenées, ou alors à un moment donné ils le disent hein, tiens, à un moment donné ils veulent se poser, donc lui il veut dessiner et tout, mais il écrit aussi le gars qui fait les dessins. Alors donc il raconte plein d'anecdotes qui passionneront les férus de culture japonaise. Par exemple, quand il commence à prendre l'avion, il discute avec l'un des membres de la compagnie, voilà, et ils disent quelles sont les spécificités des voyages au Japon. Alors il dit on vous sert pas trop de nouilles japonaises, de nouilles instantanées, parce que les Japonais ils sont férus de ça. Alors il faut quand même savoir que le voyage dure plus de 12 heures hein, je sais plus, je l'ai noté quelque part.
Oui. Oui.
Et en fait les nouilles instantanées ils en raffolent, donc plutôt, au lieu de les engraisser et tout, en fait c'est ils en servent une fois et c'est pas à la demande après. Alors déjà, voilà, ça pose la couleur. Et alors il disait, alors il y a vraiment des distinctions entre le public, la clientèle japonaise, t'entends rien, ils sont très disciplinés, c'est très zen les voyages et tout. Le public allemand, les consignes, c'est alors maintenant vous mettez votre ceinture. Clic uniforme, clic. Ça, c'est le public germanophone.
C'est vrai.
Et par contre, quand c'est.
Les Français ou les Anglais, là par contre, c'est le bordel.
Ben non, c'est surtout la communauté latino quand ils vont dans les pays d'Amérique du Sud, c'est le bazar complet. Ils disent c'est n'importe quoi, ils sont très indisciplinés. Alors ils disent, alors évidemment décalage horaire oblige, donc leur première journée au Japon, parce qu'ils vont pas se bousiller une journée à ne rien faire, donc ils commencent à visiter dès la première journée dure 31 heures.
Oui, parce qu'en plus tu arrives le matin là-bas, tu arrives entre 9h et,
voilà,
et midi quoi.
Et
donc,
ici c'est le soir, donc tu finis ta journée et là-bas tu commences la journée.
Et c'est vrai que quand j'y étais, t'arrives le matin, alors déjà l'aéroport il est clean, il est impec, etc. T'as tout qui t'arrive couleur fluo. Et pour toi c'est le soir.
Oui.
Et tu vas avoir tout couleur fluo pendant toute la journée comme ça.
Alors il confirme que l'hospitalité des locaux n'est vraiment pas une légende. Il parle aussi de leur difficulté à s'orienter dans des rues qui n'ont pas de nom, hein. Voilà. La faiblesse des locaux pour parler anglais, donc des fois ils tombent sur des gens qui sont plus ou moins hispano, ils ont fait des études d'espagnol, donc des fois ils essaient de parler en japono, espagnol, franco, voilà, donc ça, des fois c'est le gros bazar pour se faire comprendre.
Et puis, c'est une anecdote que nous a confié un ami, ils sont tellement serviables qu'ils sont capables de vous suivre pour être sûr que vous arrivez à destination.
Oui, tout à fait. Ils en parlent là aussi. Ils parlent aussi des étalages colorés et très 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 bien alignés des supérettes. Essayez de vous mentaliser la supérette de votre quartier là, si vous l'avez tous votre image, et vous essayez de vous dire que il n'y a pas un seul aliment ou produit qui ne dépasse pas. Tout est aligné sur des lignes parfaitement rectilignes et tout. Alors là-bas, en plus avec le côté très fluo et les typos japonaises, quoi. Voilà, c'est avec tout le spectre chromatique dans un logo.
non, mais surtout tous les fruits et légumes, c'est vraiment la furie du sur-emballage. C'est-à-dire tout est reprotégé. C'est fait la cellophane et tout, c'est...
Alors quand tu lis, alors déjà l'artbook il est très très
il est
imposant.
Il a visiblement 150 pages quand même.
Je vais te dire ça de suite.
Vous savez qu'on fait Paris en interne, c'est est-ce que je suis capable de donner le nombre de pages?
Pas loin, 154 pages exactement.
Ouais,
alors en plus c'est un très grand format puisque c'est facilement... c'est plus grand que le format A4. C'est à l'horizontale, à l'italienne, voilà. Et alors évidemment c'est très très long à lire, puisque évidemment si t'es passionné par les images, tu regardes, parce qu'en plus les aquarelles elles sont vraiment tirées en très très grand format, donc tu vois les détails et tout. Et puis en plus le mec, comme il s'est inspiré de photos, tu vois qu'il a pas lorgné, il a pas lésiné sur les détails. Et à un moment donné, ils le disent, comme il y a eu d'encre de Chine, d'aquarelle et tout, il y a un boulot monstrueux pour ressortir l'imagerie japonaise et tout. Et ensuite, tu as le rédactionnel aussi qui est assez conséquent. Alors du coup, tu prends vachement de temps pour lire ça. Il faut avoir des muscles au bras, parce qu'à un moment donné, t'as mal au bras. Hein, voilà. Et c'est vrai que ça s'adresse en priorité aux amoureux et ceux qui nourrissent le rêve un jour d'aller au Japon. Parce que là, c'est vraiment l'impression que tu as, c'est comme quand tu découvres... des animés japonais comme Totoro ou des trucs qui prennent le temps de mettre des ambiances japonaises avec les jolis arbres et tout. Tu prends une... T'as le smile après quand tu regardes des animés comme ça, et là c'est pareil. D'un moment donné, tu peux scotcher pendant 10 minutes sur une image. Tu dis, oh là là. En plus, il arrive à rendre la lumière, à rendre le côté zen et tout. Et tu le ressens dans les témoignages, dans le rédactionnel. Ils disent, ils sont frappés par la verdure qui est omniprésente. Même en plus, bon. Ils sont allés à Shinjuku, à Akihabara, comme n'importe quel touriste. Mais c'est la nana, elle dit aussi, là j'ai été déçu, là j'ai été désappointé et tout. Mais elle le dit avec la part de subjectivité, oblige. C'est son ressenti à elle. Elle dit pas c'est nul. Elle dit moi j'ai été déçu parce que j'étais fatigué, parce que j'avais faim, parce qu'il faisait chaud. Et elle dit ça laisse entendre que ce quartier là ça pourrait plaire très bien à quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. Et voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Et moi j'attends vraiment de pied ferme la deuxième partie, où quand ils vont visiter les temples, notamment Kyoto et tout, ça va être super bien et tout. Donc voilà, Voyage au Japon tome 1 consacré à Tokyo.
Très beau. Très beau.
Voilà, ouais, non, c'est à conseiller aux fans d'artbook, aux fans de culture japonaise, à ceux qui aiment bien tout simplement suivre des histoires de, voilà, des témoignages des carnets de route et tout, par Rémi Ménègre et Sandrine Garcia, et c'est édité chez Café Salink. Et alors évidemment...
Moi franchement j'aimerais bien une collection comme ça, mais sur d'autres pays, que ce soit la Chine, l'Afrique centrale, le Kenya, le Mexique et tout, parce que c'est clair que c'est très très beau, très bien écrit, ça a l'air très instructif, ce serait bien.
Oui, alors j'essaie de vous retrouver le prix, mais il n'est pas sur la couverture.
Non,
mais,
c'est pas vrai.
Non, il n'y est pas, mais sachez que les artbooks qui sont édités chez cet éditeur sont très, très, à des prix très agressifs et très bas. Donc, voilà. Donc, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire. On ne va pas trop s'éterniser non plus dessus, mais si vous pouvez le feuilleter chez votre libraire, c'est vraiment ça vaut le coup. Et,
il est à 26€ apparemment.
Voilà. Ouais, 154 pages, un artbook plus grand qu'un A4 à 26€. Franchement, allez-y, quoi.
On va faire une petite interruption musicale et je vais informer d'un changement quand même mes deux animateurs. Et oui, encore une breaking news. Hypnolove, Flashy Pretty Girl. Flashy Pretty Girl, extrait de l'album Euro Love, sorti il y a 6 ans maintenant. Oh,
excusez-moi. Hop.
Voilà, je me suis inversé les trucs parce que...
Tu t'es inversé les trucs.
Ah ouais, ouais, tu sais, il faut pas...
Comprenne qui pourra.
Ben, non, s'il te plaît.
S'il vous plaît.
Non, non, non,
non, non, non, non.
La rubrique cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround par du sport.
Bah ouais, pour commencer, hein, parce que Thomas, toi aussi, t'en as un prêt.
Ouais, ouais, vas-y, je t'en prie.
Ok, eh ben, on va d'abord faire dans l'Heroic Fantasy hein, avec John Carter. De Andrew Stanton. Alors Andrew Stanton, c'est le nom que quand je l'ai vu au générique, je me suis dit merde, mais je connais ce nom, j'ai déjà vu quelque part.
C'est plutôt, ça s'adresse plutôt à un public plus jeune d'habitude.
Voilà, voilà, parce que c'est quand même le mec, bon, de chez Disney, le film il sort de chez Disney, hein, qui nous a fait quand même les trois Toy Story, Mille et une pattes, Monstres et compagnie, Wall-E, Nemo, et actuellement il est en train de tourner la suite, enfin pas la suite, mais un autre monstre, c'est Monstres University.
Ouais, donc c'est la
d'accord.
suite de Monstres
voilà.
et compagnie.
Ouais, ouais, et donc là, il fait donc les là, aventures bah... de Jim Carter.
Voilà, voilà. John Carter.
En Jimmy Carter, c'est le président.
Voilà.
Putain, on l'avait mieux réussi à la répète celle-là.
Mais ouais. John Carter, tiré donc du bouquin La Princesse de Mars de Edgar Rice Burroughs. Burroughs, on y reviendra un petit peu plus tard. On va s'attacher à parler un petit peu du film. Tout d'abord, alors déjà, il y a un casting qui est excellent, à part le premier rôle de John Carter, donc qui est tenu par un pratiquement inconnu, on va dire, surtout de notre côté de l'Atlantique, Taylor Kitsch. Ça te dit quelque chose, toi? Tu vois rien du tout, pourtant tu l'as quand même vu dans Des Serpents pour dans l'avion, tu l'as vu dans X-Men Origins ou Wolverine.
Mais
il est surtout connu pour son rôle récurrent dans cette série qui s'appelle Friday Night Lights, qui raconte... Eh bien, les aventures d'une équipe de foot universitaire dans une bourgade qui doit être située, je crois, dans le sud-ouest des États-Unis.
En tout cas, avec un nom pareil, ouais. Je pense qu'il va y avoir pas mal de jeux de mots. Hein.
Ouais, ouais, non,
Taylor
non.
Kitsch.
Alors, la plastique est assez intéressante du jeune homme quand même, hein, qui a dû faire un petit peu de muscu et tout, hein, pour nous la faire un petit peu bodybuilder, mais pas trop. Et bon, pour le rôle qui tient, c'est tout à fait normal. Mais après, bon, le reste du casting, hein, y a rien à dire, hein, c'est pratiquement sans faute. Lynn Collins, Samantha Morton, William Dafoe. Enfin bon, William Dafoe, on le reconnaît pas parce qu'il est dans le rôle d'un monstre, hein, un tarse. Donc bon, bah, il est méconnaissable, quoi. Mark Strong dans le rôle du grand méchant, c'est-à-dire celui qui supervise tout, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le rôle de Matai Chang et toute une flopée d'acteurs. Grand Briton, on va dire, avec Sharon Hinds qui jouait le rôle de Jules César dans la série Rome, Dominic West qui est le héros récurrent de la série The Wire sur écoute, qui joue le rôle de Saptan, James Purefoy qui est Marc-Antoine dans la série Rome, on a Brian Cranston dans la première partie qui joue le rôle du colonel Powell, Polly Walker, Don Stark qui fait une petite apparition quand ils sont dans un bar à un moment donné au début du film, et également une petite apparition dans la même séquence de Jon Favreau. Enfin, tu vois des petits trucs comme ça, si non mais c'est pas des conneries, t'es dit, ah je le connais lui, quoi. Tu vois, mais c'est très fugace, quoi, hein. Ça dure une scène même pas, quoi, ou deux trois répliques encore, et ça s'arrête là. Alors John Carter, eh bien donc ça raconte l'histoire d'un type qui se fait projeter sur Mars. Mais ça, on l'apprend un petit peu plus tard, parce que bon, le film commence un petit peu différemment. Le film commence par nous expliquer bien que John Carter meurt, et on se demande pourquoi. Et bon, ben, c'est son neveu donc qui va être un jeune homme qui s'appelle Edgar Rice Burroughs, qui va donc bien essayer de remonter les choses, savoir comment ça se fait que son oncle est mort parce qu'il va lui léguer plein de choses. Et après, bon, bah, d'un seul coup, on se retrouve plongé dans un flashback qui nous amène justement à la découverte du bond que peut faire John Carter de Terre jusqu'à la planète Mars. Alors il va se faire transporter sur la planète Mars, et ce qui va arriver, c'est que dès qu'il a posé le pied et dès qu'il se réveille, eh bien, il va s'apercevoir qu'il peut faire des bonds de 50 mètres sans problème. Alors bon, il y a une séquence qui est assez rigolote, c'est au début il se rend pas compte qu'il est capable de ce bond. Donc alors, dès qu'il commence à marcher, bien sûr il fait des bonds, il prend des gamelles pas possibles et tout. C'est comique, c'est bien foutu, c'est assez bien rendu, les gamelles sont assez spectaculaires. De ce côté là on n'est pas déçu, et il va commencer à pouvoir maîtriser son don, on va dire. Mais c'est pour tomber directement sur des tribus de genre de personnages qu'il n'a jamais vu de sa vie. Bah, c'est normal, hein. Bon, bah, il est sur une autre planète. Alors, le film, par la suite, c'est l'histoire traditionnelle, bien sûr.
Je crois
sûr.
Que tu as oublié de dire qu'il a fait la guerre de sécession. Hein.
Voilà. Non, mais ça, c'est dans le flashback, si tu veux. Quoi. C'est-à-dire que le moyen qu'il utilisait pour qu'il puisse passer de la Terre à Mars, eh bien, c'est il se fait poursuivre par des nordistes qu'il capture, il réussit à s'échapper, et lors de la poursuite, il tombe sur des Indiens, les Indiens les chassent tous, et lui réussit à se réfugier dans une grotte, et dans cette grotte, il aperçoit un cadavre qui porte un espèce de médaillon. Ce médaillon, dès qu'il le prend dans la main, ça le transporte d'un seul coup dans une autre dimension, et dans une autre, sur une autre planète, donc cette fameuse planète Mars. Et là, ça va être l'histoire d'Heroic Fantasy plus ou moins classique, on va dire, hein. C'est-à-dire le type qui débarque dans un monde où il comprend rien du tout au départ et tout, qui n'a aucun enjeu à défendre, si ce n'est de vouloir retourner sur Terre, mais il sait pas comment il va pouvoir faire, retourner dans son pays d'origine ou dans sa contrée d'origine, là en l'occurrence c'est la Terre. Et il va être pris à partie partie prenante dans un contre son gré au départ, quoi, dans un conflit qui va opposer une peuplade qui veut une peuplade souveraine qui veut anéantir une autre, avec des petites histoires diplomatiques au début, des historiettes amoureuse, c'est-à-dire le prince qui veut marier la princesse, l'union de façade et tout cela chapeauté par des espèces de bonhommes qui apparaissent de façon récurrente dans toutes les différentes scènes du film, c'est-à-dire que ce soit au présent, comme c'est le cas au début du film, que ce soit dans les flashbacks pour expliquer un petit peu comment John Carter arrive sur Mars, ou même voir au retour, ils sont toujours présents, ce sont les immortels. Et donc pour rajouter un petit truc et tout, dont le patron a l'air d'être un certain Mark Strong. C'est-à-dire ils peuvent changer d'apparence comme ils veulent, ils se déplacent dans le temps, enfin ça rajoute un petit quelque chose.
Alors dis-moi, c'est, si tu dis Burroughs, avant d'en parler, donc c'est quelqu'un qui plutôt a vécu il y a pas mal de temps, et donc c'était peut-être à une époque où on ne savait pas que Mars était la planète rouge. Est-ce que Mars, les décors sont rouges, ou c'est juste une planète qui pourrait s'appeler n'importe quoi d'autre?
Non, c'est pas mal, ça c'est bien rendu, c'est pas tellement rouge en fait, on a l'impression que
le
rouge de Mars, c'est parce que quand il apparaît dans le ciel et tout, quoi, il reflète du soleil, quoi, ce qui fait que elle apparaît un petit peu rouge, quoi. Après, au niveau des décors, c'est du grand art quand même, hein, y a pas de problème, quoi. C'est très travaillé, tout est vachement crédible, tout est nickel. La diversité qu'il peut y avoir dans les peuples, dans les différentes tribus, qui est bien exploitée, avec des mouvements pratiquement différents pour chaque personnage, même quand ils sont dans une grande arène avec 3000, 4000 figurant entre guillemets, c'est vraiment très très bien rendu. C'est de ce côté-là, y a vraiment rien à dire. Disney nous délivre vraiment un produit qui, au niveau de la technologie up to date, quoi, du moment, est vraiment pratiquement sans faille.
Et au point
y compris
de vue,
au niveau de la 3D, ce qui est vraiment ce qui reste pour moi, je crois, un des meilleurs films que j'ai vu en 3D, de toute façon, qui n'agresse pas trop l'œil, hein, qui ne cherche pas à faire de la 3D pour le tape à l'œil, quoi. C'est-à-dire, la 3D est plus un complément. Vous n'avez pas de sabre qui va vous transpercer l'écran pour vous arriver à 50 cm ou à 5 cm de l'œil. Non, c'est pas ce genre d'effet là qui est utilisé dans le film. Et en ce sens là, c'est assez agréable de le voir en 3D, quoi.
Et alors, au point de vue ton du film et à qui ça s'adresse, est-ce qu'on est plutôt proche du monde de Narnia, plutôt proche de Star Wars, de l'heroic fantasy plutôt sérieuse et tout, ou est-ce qu'il y a du sidekick, de l'humour?
Oui, il y a une grosse part d'humour dans le film, mais ça reste quand même un film avec des scènes un petit peu bourrin. Il y a quelques scènes qui sont quand même, on va dire, un petit peu violentes, hein, il faut le dire.
Ouais, donc c'est pas Narnia, quoi.
C'est un petit peu plus dur que Narnia, on va dire, mais à peine, hein. C'est-à-dire que ça dure pas longtemps, et voilà, c'est tout à fait acceptable, on va dire, hein. Le film est quand même noté Parental Guidance 13, en dessous de 13 ans, hein, c'est-à-dire conseil
PG-13,
hein, de toute façon, quoi. Donc c'est dû à quelques scènes, mais sinon ça va dans l'ensemble, c'est regardable, c'est vraiment le film grand public sans problème. Mais ce qui en fait une réussite, hein, c'est que vraiment on installe bien les personnages au départ, on sait à quoi s'en tenir, il y a une richesse au niveau justement des informations qui est diffusée comme ça, et ça arrive à en faire un film très linéaire, alors qui dure quand même un peu plus de 2 heures, quoi.
Oui, 2h20, je crois.
2h10, il me semble. Ce qui fait que on est conquis pratiquement du début jusqu'à la fin. Bon, bien sûr, il y a une ou deux longueurs quand même, quoi, mais ça passe vraiment très très bien.
Tu dis qu'il est classé PG-13, c'est plutôt surprenant, parce que vu le budget quand même du film, normalement aux États-Unis on fait tout pour que justement ce genre de méga production reste dans le parental guidance. Mais pas
mais justement je vois très bien
c'est peut-être ça qui explique qu'il est en train de se ramasser aux États-Unis, parce que donc il y a un budget de 250 millions de dollars,
et pour l'instant le dernier
il a 350 millions en tout, 200 millions sur la production, 150 sur la promo, et il n'aurait rapporté que 184 millions de dollars en 4 semaines de
moi j'ai 193 millions.
On
est loin de toute façon, quoi,
193 millions.
C'est peut-être là que le bas blesse, hein, mais enfin bon,
faut pas oublier qu'il y a 50% qui va aux exploitants en plus.
Ça concerne qu'une voire deux scènes, hein, je veux dire. À un moment il y a une tête coupée, et à un autre, on le voit, la scène est vachement impressionnante, quoi, je veux dire, on le voit sortir avec le sabre du ventre de la bestiole qu'il a clamsé, quoi.
Contre, au niveau de, on parlait des chiffres, c'est vrai que l'épisode Tintin nous a montré aussi que les films pouvaient être largement rentables, même plus, à travers l'exploitation mondiale, hein. Donc pour l'instant ce sont que les chiffres des États-Unis, mais il faut voir aussi l'exploitation dans l'Europe, à travers le parce que Tintin c'est un carton si tu prends le monde, mais un flop aux États-Unis. Et je pense que les producteurs ils auraient pas mis en chantier le suite
limite, s'il n'avait pas fait un tel carton, les producteurs de Tintin, je veux dire, dans le monde. Donc je pense que John Carter, vu le caractère épique, des fois, quand c'est un flop aux États-Unis, de plus en plus récemment, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas rentrer dans leurs frais.
Tout à fait, tout à fait. Mais enfin, pour eux, c'est quand même un indicateur principal. Hein, un des indicateurs principaux, quoi, de toute façon, quoi, pour faire des suites et des trucs comme ça. Alors, John Carter, c'est. Donc issu. Alors moi le truc que j'ai trouvé, enfin que j'ai pas trouvé bien, qui m'a un petit peu déplu, c'est au début du générique de fin, il y a une dédicace à la mémoire de Steve Jobs pour tout ce qu'il a fait pour nous. Enfin bon, un truc.
Faut pas oublier que c'était l'un des vice-patrons de Disney, de Pixar, suite au rachat de Pixar.
Pixar.
La fusion avec Pixar, donc c'est normal.
pas trop quoi. Donc John Carter, c'est bien entendu.
Je veux dire, ça s'explique.
Ouais. C'est bien entendu donc tiré de l'œuvre d'Edgar Rice Burroughs, comme je vous l'ai dit, il est cité dans le film en plus. Quoi, c'est pas mal, c'est bien foutu, c'est bien amené. De ce côté-là, il y a rien à dire. Hein, c'est que ça passe vraiment impeccablement bien. Quoi, il y a toutes les reconstitutions et tout avec Bryan Cranston qui joue le rôle d'un colonel nordiste tout à fait convaincant, très difficile à reconnaître parce qu'il est barbu, enfin hirsute, il ressemble un petit peu au départ, je me suis dit tiens, c'est on dirait que ça pourrait être Custer, quoi, tu vois, quoi, ça m'en en 1868, je croyais que Custer était déjà un petit peu mort, quoi, donc ça pouvait pas être lui de toute façon. Enfin bref, c'est de ce côté-là, il y a vraiment, c'est un film qu'on peut aller voir de ce côté, c'est un film du dimanche soir excellent, tout simplement. Et j'espère qu'il y aura une suite. Alors c'est tiré donc de l'œuvre d'Edgar Rice Burroughs, qui est né à Chicago, Illinois, en 1875. Est mort en Californie en 1950 et fils d'un vétéran de la guerre de sécession qui a eu 4 enfants et les 4 enfants il a voulu les faire rentrer il a voulu leur faire embrasser la carrière militaire, donc ils sont rentrés dans les lycées militaires, écoles militaires et tout, et pour lui tout va bien, il va suivre une carrière militaire, mais il est refusé à West Point et en plus il doit abréger sa carrière militaire parce que on découvre qu'il a une malformation cardiaque, donc il est plus apte pour l'armée. Alors
des fouteux aujourd'hui.
Il va faire des petits boulots comme ça parce que entre temps il s'est quand même marié, il a déjà deux enfants dont l'aîné d'ailleurs épousera plus tard l'un des acteurs qui interprète Tarzan au cinéma.
D'accord.
Balancé, mais.
Il fait des petits boulots comme ça. Et ça dure quand même 6-7 ans, quoi. Donc, à chômer, à pas bosser. Et il a plus ou moins le temps de lire. Et il lit, quoi. Il lit des pulps, quoi. Et il déclare un peu plus tard, au sujet de cette époque, qu'il dit que c'est là qu'en lisant ces pulps, il s'est dit mais si des gens sont capables d'écrire des trucs, des histoires aussi pourries avec des concepts aussi nuls, moi aussi je peux le faire. Donc, il s'est dit je vais commencer à écrire.
C'est pas mal.
Je vais commencer à écrire. Et puis, il a commencé à écrire donc et son premier écrit c'est La Princesse de Mars justement quoi qui paraît par épisode de février à juillet 1912 et qui sortira en bouquin en one shot que en 1917, c'est-à-dire ils attendaient une période de latence et donc dans un pulp qui s'appelle Agoris je crois, donc La Princesse de Mars, et suivent ensuite pas moins de 11 bouquins consacrés à ce cycle qui s'appelle le cycle de Mars.
Oulala, ça fait de la matière pour
les dieux de Mars, les seigneurs de la guerre de Mars, tout ça c'est en 1913, alors toujours en épisode d'abord et ensuite 4-5 ans plus tard c'est réédité mais en one shot, c'est-à-dire en bouquin, en 1916 également, 1922, 1927. Il en fait encore 3 dans les sorties et 2 en 1941, tous consacrés à ce cycle de Mars avec John Carter. Mais il écrit également, alors son premier truc qu'il écrit, quoi, c'est également un truc, c'est une petite nouvelle, c'est également qui concerne Mars, c'est Les Conquérants de Mars, mais il la signe sous un pseudo un pseudo Normal Bean, et ça apparaît donc dans un pulp qui s'appelle Argosy. Voilà, j'ai retrouvé le nom du pulp. Mais il écrit également conjointement d'autres cycles. il commence à pisser de la copie à fond les manettes, hein, donc et à la même époque,
la copie, d'accord.
À la même époque, il travaille également le concept du cycle de Pellucidar. Alors là, c'est un monde qui se trouve à l'intérieur de la Terre, c'est la Terre qui est creuse. Donc il y a également après un petit peu plus tard le cycle de Vénus, et en même temps, bah, il écrit Tarzan, parce que le premier Tarzan, bah, il l'écrit pratiquement en même temps que Princesse de Mars, à savoir son premier pulp. Mais c'est un genre complètement différent.
Je l'avais sous la main, voilà.
Et des Tarzans, bah, c'est pareil, il va en écrire toute une flopée jusqu'en 1940, succès. Mais là où il a pas mal de génie quand même pour l'époque, c'est que quand il commence à publier ses bouquins sur Tarzan, et dans les années 20, il se rend compte que ses bouquins rencontrent quand même pas mal de succès, et bien lui, ce qu'il décide, c'est d'essayer de diversifier le produit, on va dire. Et donc, il décide de larguer le bébé, on va dire, sous contrôle, bien entendu, eh bien, à des dessinateurs de strip. Ses éditeurs ne le voulaient pas, ils disaient non,
ça a été l'un des premiers à avoir vraiment fait confiance justement de ce côté-là, adaptation en BD, et bien lui a pris, parce que ça a vraiment été un immense carton,
voilà,
de la King Feature Syndicate, si
je
me trompe.
Oui, à partir de 1929. Et alors bon, là, au niveau des gens qui ont dessiné Tarzan, Harold Foster, Burn Hogarth, c'est le plus connu, hein, de la période, on va dire, de la période des strips dans les années 30-40, Jill Kane également, Joe Kubert, John Buscema, mais ça c'est un petit peu plus récent. Donc il faut savoir que Tarzan, dans les versions cinématographiques qui ont eu lieu du temps du muet, il n'y a pas moins de 19 acteurs qui ont interprété le Tarzan au cinéma. Et là, je compte que le cinéma, c'est-à-dire les films de cinéma, je compte pas les séries encore qu'il y a eu, tout, y compris bien entendu Christophe Lambert.
J'attendais que tu le mentionnes.
Et Casper Van Dien.
Moi, je suis désolé. Johnny Westmuller.
Non, mais attends, qu'est-ce que tu nous parles de vrais acteurs?
Ouais, Johnny Westmuller, Buster Crabbe, enfin toute la bande de ceux qui ont été champions olympiques de natation aussi, quoi. Justement.
Voilà, et qu'on a dit, tu veux faire acteur? C'est très simple, les dialogues sont faciles.
Il y a d'autres champions de natation comme Bud Spencer qui ont fait d'autres carrières.
Ouais, alors donc, il a émigré fin des années 20, il émigre en Californie, donc ça
va. Oui,
en Californie, l'endroit où il s'installe, c'est au nord de. Il fait construire un ranch carrément, quoi. Et au fur et à mesure, il y a des gens qui commencent à faire construire autour de lui, comme ça, et cette communauté décide de prendre le nom de Tarzana, et donc maintenant c'est devenu un nom officiel, ça s'appelle Tarzana Californie.
Oula, ouais, d'accord.
Wow, c'est limite secte, hein.
Ben ouais. Non, mais enfin bon. Et donc Edgar Rice Burroughs s'est éteint à la Encino, Californie, à l'âge de 1950. Voilà, donc pour John Carter. On fait une petite virgule avant de passer à l'autre film, au film de Thomas.
Ouais, je propose quand même deux morceaux pour le prix d'un. On va commencer par Kelly Joyce, Chercher la femme version française. Vous écoutez Radio FMR et 89.1 MHz dans votre poste, 12h52 sur le live.
We'll be right back.
Maintenant, dans la lecture des news... Oui, je l'essaie de le faire manière du sport, tu vois, avec le gros blanc et tout ça. On reste au cinéma.
Et oui, alors maintenant, on n'est plus du tout dans l'heroic fantasy. On est plutôt dans... comment on pourrait appeler ça? La comédie...
de mœurs.
Comédie de mœurs, oui, ah ouais. Tout à fait. Avec Les Infidèles. Alors, Les Infidèles, vous savez, c'est ce film que deux acteurs, dont un extrêmement sur le devant de la scène, essayaient de dire hey, « on est pour la promo de ce film », alors que tout le monde lui parlait d'un autre film en noir et blanc qu'il avait fait avant. Donc, Les Infidèles, c'est de Gilles Lelouch et Jean Dujardin, mais pas que. Car d'autres réalisateurs sont aux manettes, dont Michel Hazanavicius, The Artist, Eric Lartigot, Emmanuel Berco, Fred Cavaillé et Alexandre Courte ou Courtès.
Tu veux dire que Hazanavicius a joué?
Non, tout ça, c'est les réalisateurs du film.
Non, c'est le. C'est,
Il y a plusieurs réalisateurs. Et c'est quoi? C'est un omnibus?
Bah, oui, c'est un film.
C'est l'hommage au film à sketch, mon gars. Tu connais pas ça, les films à sketch?
Voilà, le film à sketch. Donc, le fil rouge, c'est l'interprétation de Jean Dujardin et Gilles Lelouch, qui interprètent des personnages différents, mais qui ont le point commun d'être tous infidèles. Je ne m'entends plus. Voilà. Merci. Alors, l'interprétation est donc, je le disais, signée Jean Dujardin et Gilles Lelouch, mais également, il y a aussi Alexandra Lamy, Isabelle Nanty, Géraldine Nakache, Sandrine Kiberlin, Guillaume Canet, Manu Payette, Mathilde Amé et Lionel Abelanski. Voilà, ça fait du beau monde.
Ouais.
Alors, le film à sketch, on peut pas dire que ce soit vraiment dans la tradition française, même s'il y a eu quelques...
Si, dans les années 60.
Ah, voilà, dans les années 60, c'était...
Mais enfin, c'était... Il n'y a eu pas qu'en France, d'ailleurs, hein, les films à sketch en Italie.
Voilà.
Aux États-Unis aussi, il y a quelques films à sketch hein, qui sont assez connus, quand même.
Oui, mais c'est pas... on peut pas dire que ce soit vraiment des films... plutôt apparenté à l'exercice de style, on va dire. Enfin, aujourd'hui,
exercice
en tout cas.
Exercice de style, une thématique imposée au départ, plus ou moins, ou un espèce de fil rouge aussi.
Ou cadavreski.
Voilà. Ouais. Donc, mais c'est pour ça que c'est assez compliqué à monter, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Hein, mais
c'est vrai que quand tu n'es pas habitué, et quand tu es un peu réfractaire à ce genre-là, c'est vrai que ça a un côté un petit peu... On enfile les trucs... avec des écrans noirs entre deux et puis tu dis ah mince j'étais bien dans l'esprit de la fiction et puis il faut se réenquiller une autre présentation, une autre exposition avec d'autres personnages, finalement ça se passe assez bien mais bon voilà c'est le fait de revenir à chaque fois à zéro au bout de chaque quart d'heure ou de 20 minutes c'est quand t'as pas l'habitude c'est assez déstabilisant mais bon ça passe quand même là on n'est pas du tout dans l'énumération un peu lourde avec cas des fidélités 1, 2, 3, 4. Alors, il y a quelques courtes virgules dans le film, ce ne sont pas que des sketchs assez moyens longs, ce sont des petits. Des fois, il y a des toutes petites virgules pour introduire, sans jeu de mots, des personnages qui se retrouveront tous dans un sketch vers la fin du film. Alors, dans une de ces virgules, notamment, c'est l'occasion de présenter les personnages de Manu Payette et de Guillaume Canet. Guillaume Canet, qui est dans un personnage complètement cartoon. Donc, c'est marrant d'avoir vu son film Les Petits Mouchoirs, où il dirigeait justement Dujardin et Lelouch. Et là, c'est l'inverse. C'est Lelouch et Dujardin qui dirigent Canet, qui est dans un rôle de crétin fini. Thibaut, qui se réveille au petit matin avec sa maîtresse. Et puis, tout d'un coup, il y a sa femme à l'interphone qui dit hey, chérie on monte, oh putain, alors il commence à nettoyer son appart et tout jusqu'au moment où il y a le chien qui prend dans sa gueule le préservatif et plutôt que de se faire choper ben, il lance le chien par la fenêtre. Voilà, ça donne un petit peu le côté comique de ce sketch là puisqu'il y a d'autres sketchs dans le film qui sont beaucoup plus fins et beaucoup plus classiques. Alors il y a aussi un autre sketch où Lelouch joue une espèce de gars à l'intelligence on va dire mesurée et qui dont la femme est appelée aux urgences et en fait il est coincé dans le vagin de sa maîtresse et qui était en train de se faire prendre en levrette et la femme arrive et lui dit non chérie c'est pas du tout ce que tu crois. Voilà, ça avait fait l'objet cet extrait de la bande d'une bande annonce qui était assez rigolote. Alors ça commence le film par Dujardin qui est flambeur qui chante par dessus une chanson en italien. Il est dans son décapotable classe avec ses lunettes de soleil et tout et alors tu te dis ouais alors c'est classe, c'est la musique qui tape bien et tout, mais c'est pas du tout dans le genre vrai on roule des mécaniques et tout, c'est plutôt le dragueur, mais enfin, ça t'en, on va dire que tu te prends de sympathie pendant 2 minutes pour ce type, et à un moment donné, sa voiture cale. Et là, tu vois, ah d'accord, le film propose un éclairage décalé sur les infidèles. Alors, tour à tour, ces personnages du jardin et le louche sont pathétiques, losers, presque dramatiques. Au détour de sketch, il y a aussi une réflexion sur le couple. On assiste aussi à des comédies poilantes. Des fois, tu te pisses dessus de rire, des fois, tu es plutôt dans le malaise. Parfois dans le dixième degré. En tout cas, la pluralité des tons abordés, c'est ça qui fait la force du film. Parce que tu sors du coq à l'âne, tu n'attends pas au ton de chaque sketch. Tu peux passer d'un sketch qui est plutôt tordant, à dire ouais, quand même, ils y vont fort, les nanas c'est des femmes objets, à un sketch où c'est plutôt l'infidèle qui tombe amoureux de sa maîtresse et qu'elle jette complètement, tiens, vas-y. Alors, c'est vrai que c'est assez déstabilisant. Certains sketchs proposent aux spectateurs qui sont venus en couple, je pense que ça peut lancer des débats quand ils reviennent à la maison, surtout pour les couples qui sont installés depuis 10-15 ans, au moins. C'est vrai qu'il y a sur certains sketchs, notamment sur le sketch qui pour moi est le meilleur, le plus réussi du film, ou l'un des plus réussis, c'est La Question, qui est réalisé par Emmanuel Berco avec le couple L'Ami du Jardin. Ça part sur une soirée qui finit normalement, et Alexandra Lamy pose la question à son mari en disant, avec le sourire, elle lui dit maintenant tu peux me le dire, je suis pas fâché, je suis pas la gueule et tout, est-ce que tu m'as trompé, la zone en discuter totalement décontractée et tout, puis du jardin il commence à bouder, il dit non mais c'est bon, hein, de quoi, pourquoi tu abordes la question et tout, et puis à un moment donné elle insiste mais avec le sourire totalement freestyle et tout, et puis il finit par lui avouer qu'il l'a trompé, et la discussion commence vraiment à partir en vrille, et je vous spoil pas la fin, mais c'est assez bien vu, c'est assez fin, ça pose vraiment des questions bien vues et tout sur le couple. C'est finement joué. Alors évidemment, le fait que le couple soit aussi un couple à la ville, ça y contribue, mais pas que. Il y a un énorme plan séquence à un moment donné où ils discutent. Tu vois vraiment le jeu d'acteur, le talent de mise en scène. Et c'est vraiment, c'est un sketch qui interpelle. T'es pas là pour te marrer. Alors après, ça fait plutôt film français classique, ce sketch-là, par opposition à d'autres où t'as une réunion des infidèles anonymes présidée par Sandrine Kiberlin qui les fait tous parler les uns après les autres, et c'est vraiment décalé par rapport au reste, c'est à se tordre de rire parce que c'est vraiment que des personnages de cartoon, et puis vraiment tu te marres, quoi. C'est Manu Payette en gars qui ne cherche que des cougars, mais vieilles, hein. C'est bon, moi je cherche la vieille. Voilà. Donc on a tous les tons, tous les styles, pour moi c'est une réussite. Il y a aussi le segment d'Azanavicius où au cours d'un séminaire dans un bled paumé, où c'est des membres d'entreprise qui partent en car pour faire un séminaire, et c'est Dujardin qui interprète la fidèle de service, et il essaie, c'est un loser, et il va passer toute la soirée à essayer de tromper sa femme, mais il est tellement loser, il se fait damer le pur à chaque fois par un gars en fauteuil roulant qui a beaucoup plus d'aura et de charisme que lui, qui est joué par Lelouch. Et en fait, c'est un festival d'occasions ratées, parce que lui, plus il essaie d'insister et plus il s'enferme dans son propre échec. Il y a des plans où l'acteur du jardin n'est vraiment pas mis en valeur, notamment des sketchs où des plans où il est nu et qui se penche en avant et tout, tu vois, il se met en danger quand même physiquement, l'acteur, et ça finit sur un segment où ils sont à Las Vegas, ils font un trip à Las Vegas, les deux copains, et ça finit dans une façon que tu ne voyais pas venir du tout. Et la fin est selon moi trop décalée par rapport au reste, mais c'est vraiment, tu souris quand tu vois comment le film se conclut. Au final, un festival de bons acteurs qui n'en font pas des tonnes, à part sur un sketch, mais qui est vraiment assumé, vraiment grosse grasse comédie. La pluralité de temps, vraiment, c'est je pense que c'est un film à voir. Si vous ne l'avez pas vu au cinéma, ça se voit très facilement en DVD. Et alors, par contre, pendant le plan promo, il disait, attention, si vous allez en couple, il vaut mieux être dans des bonnes dispositions après, parce que les discussions, on sait pas où, comment ça peut finir après, hein. voilà, Les Infidèles, film qui est sorti quand même il y a un bon mois déjà, mais qui est toujours à l'affiche. Un projet orchestré, dirigé et joué par Dujardin et Lelouch, mais pas que. Pour la petite histoire, Dujardin a eu l'idée du titre en voyant le DVD de Martin Scorsese, Les Infiltrés, et il a lu en diagonale, en fait, il a vu, lui, Les Infidèles, et c'est ça qui lui va donner l'idée du titre. Voilà. Voilà, un très très bon film à sketch qui joue sur plusieurs tableaux, sur plusieurs tons, et qui, tout en étant très comique, le fait avec classe, et je trouve ça, c'est ça surtout qui, moi, je dis chapeau.
13h07 sur la poubelle des radios, 89.1, c'est Radio Éphémère. Osman Boys Like Us, extrait de la bande originale de...
du film Les Infidèles.
D'accord.
Et qui clôt le générique, et qui a pourquoi pas le générique de fin.
It's a fire. Smart kids, they like to watch. They wanna learn how to become sweeter than us. They don't know what they're after. If I could, I wouldn't be that soft. Boys like us wanna play the game. Like us. You wanna play? You wanna play? Girl, like inside, never scared, never tired to walk higher than us. Watch out, it's a crime. When you're out there, outside, it's never safe. The crowd is loud, but it's the fact that you are stronger than us. And you know what you're after. If I could, I wouldn't be that soft. Boys like us, you wanna play the game. Like us. If I could, I wouldn't be that soft. Boys like us, they wanna play the game. Boys like us, wanna play, yes. Like us, they wanna play. Boys like us, wanna play.
Osman, Boys Like Us. Bon, ok, promis, je débranche la péritelle puisque du sport, allez, stop!
Ouais, ouais, parce que là, on dirait la musique d'un jeu vidéo, quoi. Enfin, vintage en plus, quoi.
Ah ouais, du old school, ouais. Du rétro gaming.
À fond, à fond. Bon, des séries, il n'y a pas d'inédit à proprement parler. Si, débarquement sur une chaîne en clair, on va dire, entre guillemets, Paris Première, donc de cette série qui avait été diffusée en première diffusion française par Orange Cinemax, c'est Boardwalk Empire,
ouais.
La série de Martin Scorsese. Mais pas que, hein, puisque bon, le mec qui écrit la série, c'est Terrence Winter. Le mec qui était producteur et également scénariste sur Les Sopranos. Donc, ouais, bon, ok, on achète. Et avec, bien entendu, le pilote tourné par Scorsese. 18 millions de dollars pour le pilote. Enfin bon, tu vois, donc on se dit que c'est pas mal. Et ça raconte donc l'histoire de la naissance de la prohibition et de la naissance un petit peu de ce qu'on appelle la mafia ou des bandes organisées criminelles. Et en l'occurrence, ça se passe non pas à New York comme on a l'habitude de le faire et comme Scorsese a l'habitude de le faire parce qu'il est natif quand même du coin, mais à Atlantic City. Bon, c'est pas loin, tu vas me dire quoi.
Ouais,
mais c'est bon, ça raconte un petit peu les débuts d'Atlantic City avec. On suit la montée en puissance d'un caïd qui contrôle un petit peu tout, à savoir Steve Buscemi. Alors bien sûr,
distribution. Si je me souviens bien, juste une petite parenthèse. Oui. Si je me souviens bien, Atlantic City, ça partait du fait en fait que les eaux territoriales étaient s'arrêtaient à un maïs et donc en fait ils ont fait une cité sur pilotis. C'est
voilà,
ça.
Voilà, ouais. Bah, pour éviter les taxes, hein, pour des histoires de taxes. Hein, toute façon,
taxes,
quoi.
Le fait que du coup ils puissent faire un casino et tout le reste.
Voilà, hein. Oui. Alors donc ça marche tellement bien. Alors ça a été diffusé sur HBO. Aux États-Unis, ça marche tellement bien aux États-Unis que dès qu'en cours de diffusion de la saison 1, la saison 2 a été commandée. La saison 2 est en cours de diffusion actuellement, une saison 3 est en commande et va se faire. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ça marche très très bien et c'est diffusé donc sur Paris Première à partir de demain soir, 20h40, à raison de 2 épisodes, ce qui est pas mal non plus. On va pas se tartiner un tunnel 4. De 3 ou 4 épisodes à la
5.
Suite comme ça, juste. Non, c'est nettement mieux comme ça. Donc c'est à partir de demain soir, Boardwalk Empire. Sinon, au niveau série, tu seras scotché devant ta télé mercredi prochain pour regarder l'autre inédit de Sherlock, et qui est l'adaptation d'un des plus connus, on va dire, de Sherlock, à savoir Le Chien des Baskerville.
D'accord.
Sauf que là, Baskerville, ça va. Ouais, je vais le spoiler un peu. Donc, Baskerville, c'est plus une famille, c'est une ville. Voilà, c'est un endroit.
Ok, c'est
spoiler à fond les manettes. Ça, c'est mardi, donc mercredi à 20h35. Et on a également la saison 4 inédite d'un village français sur France 3 à partir de mardi prochain, 20h35. Sinon. Ça fait 3 week-ends de suite, ça fait 3 semaines de suite que dans la seconde partie du samedi soir, dans la tranche horaire de Arte, eh bien, on a droit à des documentaires qui concernent le cinéma, la pop culture, on va dire. Hein. Il y a eu le documentaire sur Roger Corman la semaine dernière, je me rappelle pas exactement, mais c'était aussi assez intéressant. Et cette semaine, ce soir, donc à 22h30 sur Arte, eh bien, c'est un documentaire sur Christopher Lee, L'élégance des ténèbres d'Olivier Schwem, 2009. Donc ça peut être assez pas mal parce que bon, c'est assez récent quand même. Hein, c'est Christopher Lee après Le Seigneur des Anneaux et tout le truc. Et le bonhomme continue de tourner. Hein?
Ouais.
Presque 90 balais et puis pas de problème, je continue de tourner, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui aiment bien l'actualité et les téléréalités, je vous ai dégoté Force Spéciale Dallas SWAT. Alors c'est une téléréalité, hein, c'est-à-dire dans le trip journaliste embedded, c'est-à-dire qui est carrément avec le truc qui filme partout et tout, et puis t'as des mecs de temps en temps qui font... qui montrent ou qui racontent leurs pensées profondes au moment de l'action. C'est sur Direct Star, c'est mercredi prochain à 20h40. Au niveau des films, pas grand chose, mais que du bon. Hein, comme ça, c'est vite torché. Ce soir, sur RTL9, Fureur Apache de Robert Aldrich en 1972. Et en fait, c'est bon, c'est un peu la suite, on va dire, du film qui a tourné pratiquement 20 ans plus tôt, Bronco Apache. Et là, c'est avec Brut Lancaster, Joaquin Martinez, Bruce Davison, Richard Jekyll. Et c'est vraiment un bon western. Hein. Franchement, quoi, c'est la c'est le chant du cygne du western américain, mais ça c'est un excellent film, hein, donc qui date de 1972. Sinon sur Ciné Plus Premier, ben c'est le début d'une série anglaise qui est tout à fait à propos par rapport aux récents événements. C'est Profession négociateur. Alors série anglaise avec Trevor Eves dans le rôle titre, Ellen Baxendale. Saison 1 donc à partir de ce soir 20h40 avec c'est plutôt une mini-série d'ailleurs, hein, avec 3 épisodes diffusés ce soir, le 1, le 2 et le 3, de 20h40 à 23h05. Sinon demain sur France 4 à 20h35, l'excellent film de Florent Emilio Siri. Non, c'est pas Clo-Clo, parce que Clo-Clo ça passe pas encore à la télé, mais la bande-annonce, moi je la trouve qu'elle est vraiment très bien. C'est L'ennemi intime, et bon bah c'est aussi dans l'actualité vu que on est en pleine commémoration, on va dire, des accords déviants.
Le réalisateur, c'est très très bon. Il avait fait Nid de guêpe, qui était passé inaperçu,
nickel.
Qui était nickel. Chrome.
Impeccable. Ouais.
Ouais.
Avec Magimel et Dupontel.
Il a même fait un film avec Bruce Willis, je crois, d'ailleurs, aux États-Unis.
Non, c'est pas lui qui a fait Assaut.
Florent Emilio Siri, il a fait un film qui s'appelle Otage.
Ah oui. Ensuite, on a demain sur Ciné Plus Classique La Machine à explorer le temps de Georges Pal en 1960 avec Rod Taylor, Alan Young et Yvette Mimieux. Georges Pal, qui est un Hongrois né en 1908, il débute à Budapest, animateur de marionnettes d'ailleurs. Ensuite, il va à Berlin bosser pour les studios UFA, puis aux Pays-Bas pour les studios Philips, où là il tourne pas mal de petits films d'animation de 1934 à 1938, ce qui lui vaut d'être repéré par Hollywood, qui le ramène en Californie, où il va faire les effets spéciaux, surtout dans les films de science-fiction, à savoir de Barry Ryan Iskin, Rudolf Maté, enfin bon, les films de science-fiction des années 50. Et en 1958, il tourne son premier film en tant que réalisateur, Tom Pouce. Ensuite, il fait La Machine à explorer le temps de H.G. Wells, hein, bien sûr, hein, c'est tiré de la nouvelle de H.G. Wells. Ensuite, il fait Atlantis, Le Monde Enchanté des Frères Grimm, et il termine par Les Sept Faces de Docteur Lao. Alors, c'est Georges Pal, donc, pour La Machine à explorer le temps. Lundi, sur Polar, Kill Me Again, le premier et excellent polar de John Dahl, et sur FX, Terminator, donc... le premier, l'original, il n'y en a pas d'autre. Mardi, c'est la soirée des bouses. Mardi, c'est la soirée des bouses avec une bouse qui est inédite encore à la télé, mais ça ne va pas rester longtemps. C'est sur RTL9 à 20h40, Far Cry Warrior de Uwe Boll.
Ouais, forcément.
2008 avec Til Schweiger, Emmanuel Vaugier et Michael Paré. L'histoire d'un journaliste qui va dans une petite île de Micronésie et qui se rend compte qu'il y a carrément une base secrète militaire. Oh mon dieu. Sur Direct Star, c'est pareil, Des Serpents à bord de Fred Hollenrey en 2008 avec Luc Perry, Christa Allen et Tom Béranger. Attention, ça va sniper à fond les manettes.
C'est pas mercredi. Snakes on Plane.
Non, c'est la...
Non, c'est la version B.
La version sur l'eau.
Mais Fred Hollenrey est un spécialiste du genre. Mercredi sur Sci-Fi, Invasion Los Angeles de John Carpenter. Regardez ce film après les récents événements et vous allez comprendre un petit peu la manière que vous avez en ce moment quand vous vous déplacez en ville. Ça va être assez saisissant.
Reproduis-toi.
Sinon, Ciné Plus Classique, il nous faut deux soirées de classiques, mais vraiment de très très grands films. Tout d'abord, mercredi soir à 20h40, Night in the City, Les Formants de la Nuit de Jules Dassin. Magnifique, suivi du M le maudit de Fritz Lang. Alors tu vois, c'est quand même la soirée haut de gamme. Jeudi sur 13e rue.
Et là, on va parler justement de pistage, d'un tueur d'enfants et tout, et d'une montée insidieuse de.
Ah bah M le maudit quoi. Hein.
Fort.
Ouais. Alors jeudi sur 13e rue également, une soirée thématique avec thématique sur un acteur, Ethan Hawke. Tout d'abord dans Training Days d'Antoine Fuqua, où Antoine Fuqua soit réalisé des grosses merdes. Enfin, des trucs pas terribles, quoi, on va dire, des séries B avec le budget d'une major, soit il réalise des films pas mal, tel ce Training Days. Mais enfin, il est surtout sauvé parce que bon, les acteurs sont bons dedans.
Ah,
aussi,
bah, Denzel Washington,
Washington
en chef,
Tom Béranger, encore lui, Eva Mendes, elle était pas tellement connue à l'époque.
Bon, ça passe quand
c'est jeudi sur 13e rue, donc suivi d'un film moins connu, hein, qui est un film en fait, un film avec un budget français, Little New York de James de Monaco, avec Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio et Seymour Cassel. Et jeudi, ben, Ciné Plus Classique nous fait de nouveau une soirée exceptionnelle au niveau cinéma avec trois Tarkovski. Tout d'abord le Stalker à 20h40, suivi à 23h15 de Solaris. Ce Stalker c'est de 79, Solaris de 72. Et d'un troisième qui est entre les deux en fait, le Miroir, qui date de 1975 à 1h55 du matin. Donc c'est la nuit Tarkovski. Alors
il
les gars,
il va falloir du Red
café,
Bull et...
Red Bull et café les gars. Vendredi sur Ciné Plus Frisson, bah c'est pas compliqué, on vous fait du Rambo à fond les manettes avec le 1, le 2 et le 3 à la suite.
Pas le 4 ?
Yes man. Et on termine avec vendredi sur FX, un excellent film de Dulcio Tessari, c'est un peplum italien bien sûr, 1961, c'est l'âge d'or, c'est les titans avec Giuliano Gemma. Rends-toi compte, l'âge qu'il avait à cette époque-là et tout, il faisait craquer toutes les minettes. Antonella Lualdi, bah elle faisait craquer tous les mecs, et Pedro Armendariz dans le rôle du méchant. Et c'est tout pour les films à la télé. Et quand tu auras terminé ta conversation téléphonique personnelle, tu pourras clore cette émission.
Oui, parce que apparemment un auditeur nous appelle.
Oui, non, on parlait de choses, la préparation des émissions à venir, voilà. Bon, allez, pour la peine, tiens, c'est aussi dédié à la personne que j'ai au téléphone et aux deux suivants qui vont accompagner du sport tout à l'heure. C'est un extrait des compétitions qui ont eu lieu à Koweït cette semaine. Une sportive kazakh, on lui joue son hymne national. Malheureusement, il y a un problème. La fille est absolument outrée, puisqu'en fait on lui a percé non pas l'hymne kazakh, mais la version reprise par Borat. Elle tire vraiment la gueule sur la vidéo, je vous laisse deviner pourquoi. Enfin, belle joueuse quand même. Voilà. Donc,
ouais,
n'oubliez
elle a quand
pas.
Même gagné, hein. Merde.
Ne récupérez pas les trucs comme ça sur Internet. C'est pas bien. Nom de Dieu, mais c'est la fin de l'émission. Et j'étais au téléphone en même temps que du sport faisait le vendredi et tout ça. Et donc, j'ai manqué quelque chose. Mais Thomas, qu'ai-je manqué depuis le début de l'émission si je suis dans ce cas de figure ?
Eh bien, nous avons eu un gamin défiguré de la séance diapo de vacances, un gars musclé avec des lianes. Non, avec une épée. Des serial coucheurs, des films torchés, le retour de Brut Lancaster du haut de gamme à la télé, mais aussi des bouses. Et Tarkovski suivi de Rambo. Et oui, on fait aussi du hardcore.
Non d'une capote
usagée.
Merci, je vais me faire engueuler encore une fois. Avez manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter cette émission, voire regarder nos notes écrites, nos archives et tout ça. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site web de l'émission suppléantweekend.fr. Suppléantweekend.fr. Vous pouvez aussi avoir la liste de nos invités, hein, puisqu'on me l'a demandé tout le reste, mais on va faire la compilation, nous, pour le bilan annuel de la radio.
Ouais.
Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz, nous sommes une radio associative et indépendante dans laquelle nous ne passons pas de publicité grâce au fonds de soutien à l'expression radiophonique, et il faut que nous fassions notre dossier annuel. Et voilà, paperasse. Et ceci dit, ben rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur FMR 89.1 MHz. Ciao, bye bye.